franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'histoire climatique de la Méditerranée lue dans les cernes d'arbres avec une équipe de la NASA qui a passé en revue 1000 ans de relevés dendrochronologiques et qui dresse un portrait climatique précis des côtes méditerranéennes. On en parle avec vous, Joël Guillot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes par téléphone depuis Aix-en-Provence, vous êtes paléoclimatologue au CNRS et directeur du laboratoire d'excellence climat et risques naturels en Méditerranée. Et puis dans ce studio avec nous, Hervé Kempf pour reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette très large étude du climat en Méditerranée, Hervé?
Et bien d'abord qu'elle est importante, elle a été publiée dans le Journal of Geophysical Research le 4 mars et les chercheurs pilotés coordonnés par Benjamin Cook disent « Ok, les modèles climatiques existants projettent un réchauffement, un assèchement du bassin méditerranéen, mais qu'en est-il pour le présent et qu'en est-il pour le passé ?» Et donc ils ont fait une grosse étude à partir, vous l'avez dit, d'endochronologie, c'est-à-dire d'études des cernes des arbres. En gros, les cernes des arbres, c'est l'épaississement annuel des arbres qui est plus ou moins épais selon l'humidité ambiante, et l'étude sur 900 ans, sur des dizaines de localités à travers tout le bassin méditerranéen, a permis de reconstituer l'histoire des sécheresses sur cette période, avec une conclusion notamment frappante, c'est que la sécheresse de l'est du bassin méditerranéen, Turquie, Syrie, Levant, entre 1998 et 2012, est la plus importante que l'on ait connue depuis 500 ans.
Et on y reviendra, mais avant ça, Joël Guillot, comment fait-on concrètement pour lire le passé climatique dans les arbres ?
Eh bien, on fait des carottes qu'on prélève dans les arbres. Alors, on essaye de trouver les arbres les plus vieux. Donc, pour cette étude, il y a des arbres qui ont vécu plus de 900 ans. Et sur ces carottes, eh bien, on analyse les alternances des bandes qui sont claires et foncées et qui représentent une année de croissance de l'arbre. Et on fait ça sur de nombreuses carottes, de nombreux arbres, et finalement on a une série de croissances d'arbres qui représentent les conditions soit optimales pour la croissance, soit des conditions mauvaises, comme la sécheresse, puisqu'ici on est en région méditerranéenne, ce qui empêche l'arbre de pousser, c'est le manque de pluie. Et avec des méthodes statistiques, finalement, on en arrive à des indices de sécheresse qui ont été reconstruits dans cette étude. En fait, cette étude se base sur des résultats qui ont été obtenus avant, mais c'est la première fois qu'on fait une analyse aussi fouillée sur ces reconstitutions du climat et qu'on en tire des conclusions aussi claires sur la sécheresse récente.
Donc le principe est le même que les carottes de glace avec la mémoire climatique emprisonnée justement dans les glaces ?
Oui, alors dans les glaces, c'est pas particulièrement l'épaisseur de la couche qui compte, parce que en fait la glace elle se comprime au fur et à mesure qu'il y a de la neige qui tombe, alors qu'ici c'est vraiment l'épaisseur qui est importante. Il y a d'autres méthodes que l'épaisseur, on peut regarder aussi la densité, mais c'est vraiment relié à la quantité de biomasse qui est produite par l'arbre.
Cette sécheresse...
Alors que pour les carottes de glace, c'est plutôt d'autres méthodes qu'on utilise comme l'analyse isotopique sur les carottes elles-mêmes.
Hervé Kempf parlait de la sécheresse qui a touché le Moyen-Orient au début du siècle. Comment fait-on pour savoir si c'est la plus grande depuis 900 ans exactement ?
Eh bien, comme je l'ai dit, on reconstruit un indice qui représente vraiment la sécheresse, qui prend en compte à la fois le manque de précipitations et aussi la température, parce que plus il fait chaud, plus il y a de l'évaporation et moins il y a d'eau disponible pour la végétation et pour l'agriculture ici en l'occurrence.
Et donc
les cernes sont plus minces en fait.
Les cernes sont plus minces quand il fait sec, oui.
Ça se mesure à quoi ? Au dixième de millimètre, au centième de millimètre ?
La précision c'est le centième de millimètre et les cernes en général fluctuent entre quelques dixièmes de millimètres et quelques centaines de centièmes de millimètres.
C'est pas la première fois, Hervé, que des scientifiques font un lien entre un conflit régional et de réchauffement climatique. Quelque chose avait déjà été fait il y a quelques mois dans les PNAS.
Alors effectivement, en janvier 2015, des chercheurs de l'Université de Californie ont analysé cette importante sécheresse de la fin des années 2010 en Syrie. On dit qu'il y a un lien entre cette sécheresse liée au changement climatique et le conflit très grave qui a commencé en 2011. Et d'une certaine manière, les conclusions de l'article d'aujourd'hui de la NASA dit ce que nous trouvons est cohérent avec ce que disait notre collègue du PNAS il y a 2 ans.
Alors c'est ça Joël Guyot, parce qu'on peut voir dans le passé de la Méditerranée d'autres corrélations justement entre des périodes de sécheresse et des crises politiques ou des conflits.
Oui, en fait, il y a régulièrement des crises politiques, des civilisations qui qui collapse ou qui décline dans le passé, dans les derniers millénaires, depuis la période assyrienne, on a vu ça assez souvent. Par exemple, une des plus importantes, c'était il y a 3000 ans, c'était ce qu'on appelle la fin de l'âge de bronze. Eh bien, il y a la civilisation hittite qui a collapsé, il y a le royaume égyptien également, c'était Ramsès II, et il y a aussi un déclin assez fort. Et après cette crise-là, eh bien, il y a eu un déplacement du centre de gravité des civilisations méditerranéennes depuis le Levant vers la Grèce classique. Et c'est la Grèce classique qui a pris le relais, puis après ça a été les Romains. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a réellement une décorrélation souvent, il y a eu d'autres crises, et chaque fois on peut trouver des événements climatiques qui sont corrélés à ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est le climat qui est la cause de ces crises. Il faut qu'il y ait de multiples facteurs, des facteurs culturels et politiques. Mais souvent, le climat agit comme un amplificateur et quelquefois même comme un déclencheur. Alors, si on revient à cette dernière crise climatique du début du XXIe siècle, il faut observer que parallèlement à ça, il y a la guerre en Syrie. Mais avant ça, il y avait la guerre en Irak. Il y a eu pas mal de réfugiés qui sont arrivés en Syrie. Et suite à la politique agricole de la Syrie, qui était absolument pas durable, qui a fait un grand prélèvement sur les réserves d'eau dans le sous-sol, eh bien, quand est arrivée la sécheresse, eh bien, ça n'a plus été possible de s'adapter et d'irriguer correctement les champs de blé. Et donc, il y a eu des migrations des campagnes vers les villes. Et on peut penser, mais tous les historiens ne sont pas d'accord avec ça, que il y a eu un ferment favorable à des troubles. Alors maintenant, c'est vraiment les sciences sociales qui doivent se pencher sur le problème pour nous dire si c'est vraiment la cause ou si c'est simplement une corrélation.
Est-ce que la crise migratoire que l'on connaît entre la Syrie et cette région et l'Europe depuis maintenant plusieurs mois est liée à ça, selon vous?
C'est difficile à dire. C'est-à-dire que c'est un fait que les conditions de vie en Syrie sont absolument impossibles. Et beaucoup plus que la crise agricole, maintenant, c'est la guerre qui est responsable. Donc, je pense que la crise agricole liée au climat a peut-être été un déclencheur, mais actuellement, c'est vraiment la guerre qui est responsable des migrations. On peut pas tout mettre sur le dos du climat. Ce serait un petit peu trop simpliste.
Joël Guillaume, pourquoi, ce sera ma dernière question, est-ce que l'Est de la Méditerranée est plus impacté par le réchauffement et plus sensible aux sécheresses que le reste des côtes?
Oui, alors effectivement, cette analyse pour laquelle vous m'interrogez, elle a montré que les sécheresses dans l'ouest de la Méditerranée ont été beaucoup moins importantes que celles de l'Est. Alors, l'Est est une région qui est un peu à l'interface entre deux mondes. Il y a le monde asiatique avec la mousson indienne et puis il y a le monde africain avec la mousson africaine. Et il y a une espèce de phénomène de balancier entre les deux. Et ces zones d'interface, c'est toujours une zone de stabilité climatique et finalement on peut avoir des crises assez importantes. Et ce qui se passe surtout, c'est il y a un indice d'oscillation du climat qui s'appelle l'indice nord-atlantique, qui lui détermine un peu le climat de l'Europe et de la Méditerranée. Et on est justement en zone où cet indice, qui est mesuré par la différence de pression entre les îles des Açores et l'Islande, est très positif, ce qui veut dire qu'il y a une forte circulation ouest des masses d'air. Et finalement, toute l'eau arrive sur le nord de l'Europe et pas sur le sud. Et c'est pour ça qu'on a des sécheresses aussi importantes dans le sud. Et ce phénomène est beaucoup moins important pour la partie espagnole et marocaine de la Méditerranée.
Merci en tout cas Joël Guillaume pour ces précisions. On retrouve un article sur la question sur reporter.net, Hervé?
Tout à fait.
Donc on va sur reporter.net, tout simplement pour en savoir plus. Merci beaucoup, vous êtes très laconique aujourd'hui. Merci beaucoup Axel.
On va aussi écouter les podcasts de La Une sur franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des astronomes viennent d'observer la galaxie la plus éloignée de la Terre que l'on connaisse et elle a 13,4 milliards d'années. C'est le télescope Hubble, après 25 ans de service, qui enregistre ce nouveau record. C'est à la limite de son champ de vision qu'il a repéré cette galaxie. Et le cliché nous la montre lorsque l'univers n'avait que 3% de son âge actuel, de quoi nous renseigner sur la formation de la soupe cosmique primitive. Dès 2019, le télescope James Webb devrait permettre de voir encore plus loin. En attendant, les images prises par Hubble sont sur le Twitter et le Facebook de la Tête au Carré. Et puis des chercheurs ont appris à deux singes rhésus à diriger un fauteuil roulant par la pensée. L'expérience a eu lieu en 2013, mais vient tout juste d'être publiée par le journal Nature. Pendant 3 ans, les scientifiques ont constitué une bibliothèque de données qui répertorie les régions corticales sollicitées selon les mouvements faits par les deux singes. Et des essais sur fauteuil roulant donc sont surprenants. Pour atteindre un bol de raisin, les singes se déplacent de plus en plus efficacement à chaque expérience. Un siège et une technique qui devraient faire l'objet d'essais sur l'homme pour permettre aux patients paralysés de pouvoir se déplacer. La vidéo de l'expérience vous attend sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré.